Débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. C'est un chiffre qui en dit long. Pour la première fois en décembre dernier, davantage de voitures électriques ont été vendues en Europe, 176 000, que de véhicules diesel, 160 000. Un boom de l'électrique donc qui intervient dans un marché automobile plus que morose. Jamais depuis plus de 30 ans, il n'y a eu aussi peu de voitures neuves vendues, toujours dans l'Union européenne, 9,7 millions de modèles l'an dernier. Est-ce que nous sommes à un tournant pour la planète? C'est la question que nous posons ce soir. L'électrique est-il 100% positif sur le plan écologique? Quel problème est-ce que cette révolution soulève pour la population, pour le marché automobile également? Voilà notre débat ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à nos questions, nos invités d'abord à mes côtés en studio, Pierre Leflève, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable transport au réseau Action Climat. En ligne avec nous, Bernard Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Et on attend, on espère, notre troisième invité, Guillaume Crunel, qui devrait nous rejoindre dans ce débat. Je vais commencer avec vous, Bernard Julien, puisque vous êtes cet expert de l'industrie automobile. J'aimerais faire avec vous déjà, pour nos auditeurs, un état des lieux de ce que représente aujourd'hui ce marché du véhicule électrique par rapport au modèle traditionnel qu'on connaît, essence, diesel. Ça représente quoi aujourd'hui l'électrique en France, en Europe, dans le monde?
Alors, c'est encore très minoritaire, hein. C'est-à-dire que on était à moins de 1% il y a 2 ans et demi. On est aujourd'hui en train de grimper vers les 10%. Donc 10% d'un marché automobile mondial qui est aux alentours des 90 millions de voitures en temps normal, hein. Je parle pas de 2020-2021. Ça représenterait quand même des masses significatives, hein. Donc si je prends le marché français, on est sur l'électrique à batterie, hein. Je parle pas des hybrides. On est aux alentours de 9%, hein. Donc ça devient significatif. Mais on est encore dans un marché qui est assez minoritaire parce que les véhicules sont très très chers et que, à la différence de ce qui peut se passer en Chine, ce qui nous est proposé aujourd'hui, ce sont des véhicules qui ressemblent aux véhicules polyvalents traditionnels. Alors que en Chine, par exemple, on a des toutes petites voitures qui sont évidemment beaucoup moins chères.
Alors, c'est minoritaire, mais c'est en constante augmentation. C'est surtout ça qui est important concernant l'électrique.
Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des objectifs de décarbonation à l'horizon 2050 qui ont conduit à ce que la Commission européenne propose de bannir les véhicules thermiques à l'horizon 2035. Alors, c'est pas encore tout à fait acté, mais on se dirige vers cela, hein. Donc, on sent bien sur le plan européen, sur le plan chinois, sur le plan même américain, depuis que on a changé de présidence là-bas, que l'électricité à batterie, ça devient un peu le standard universel. Alors évidemment, ça va très vite, peut-être trop vite pour certains acteurs, mais on a bien effectivement, pour la première fois depuis 100 ans pratiquement, une industrie automobile qui est obligée de faire une mutation de très grande ampleur qu'elle n'avait jamais faite jusqu'alors.
Alors, vous avez cité cette échéance et elle va cadrer le débat. On va y revenir évidemment en Europe. La fin des véhicules thermiques prévue en 2035. Évidemment, ça accélère le marché de l'électrique. Dernière question, Bernard Julien, pour achever ce tour d'horizon du marché de l'automobile électrique aujourd'hui. Vous disiez que ce n'était pas donné. C'est quoi le prix d'un véhicule électrique aujourd'hui par rapport à un thermique?
En gros, aujourd'hui, si vous prenez ce que nous connaissons, nous, en France, vous avez un modèle qui est celui de Dacia, qui est hélas importé de Chine, qui s'appelle la Dacia Spring, qui doit être vendu en prix de vente client aux alentours de 15 000. Et puis ensuite, l'essentiel de l'offre, elle est quand même plutôt aux alentours de 35 000, sachant que la valeur unitaire moyenne d'une voiture neuve vendue en France est à 27 000. Donc, vous voyez, hein, on a une toute petite offre en dessous, et l'essentiel de l'offre au-dessus, quoi.
Pierre Leflève, vous qui êtes responsable transport au réseau Action Climat, comment est-ce que vous jugez ce boom de l'électrique? Je vais citer un chiffre qui rejoint tout ce qu'a dit Bernard Julien. 1,2 million de véhicules électriques immatriculés en Europe en 2021, c'est plus de la moitié par rapport à 2020. Vous êtes content? C'est une bonne nouvelle?
Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Bernard Julien, qui a commencé par nuancer un peu ce chiffre, parce qu'il y a les tendances récentes qui peuvent être aussi un peu conjoncturelles sur le marché de l'automobile, avec de fait une augmentation des ventes de l'électrique. Mais il faut avoir aussi en tête que ça reste 10% du marché mondial aujourd'hui, ce qui doit aussi être donc bien pris en compte. Vous parlez de l'Europe. L'Europe, il y a des disparités au sein de cette Europe. Il y a un champion qui est peut-être la Norvège sur ce point de vue-là, qui a plus de 50% de véhicules électriques vendus en 2021. L'Allemagne qui augmente de manière importante aussi. La France augmente, mais moins vite. Donc c'est important aussi de voir qu'il y a différentes tendances, différentes vitesses d'évolution au sein de cette Europe, et que la France progresse, mais plus longtemps que ses voisins.
Il faudrait uniformiser ça, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai vu des chiffres concernant la Belgique. Donc en France, voilà, 160 000 voitures électriques vendues à des particuliers. En Belgique, c'est un chiffre qui est divisé par 60. Donc c'est même plus des disparités, c'est des différences énormes au sein d'une même Europe. Il faudrait uniformiser tout ça. Vous êtes pour ? Comment oui. y parvenir ?
Ben, je pense que justement, vous l'avez évoqué, ce que propose la Commission européenne déjà, d'interdire la vente de véhicules neufs à horizon 2035. C'est une étape. Et ça, c'est important que ce soit à l'échelle européenne, même s'il y a des pays qui peuvent aller plus vite, c'est déjà le cas, que ce soit le Royaume-Uni qui parle de 2030, avec une exception pour les hybrides en 2035, la Norvège qui parle de 2025, on en parlait du coup avec les résultats sur l'électrique qu'on a en tête. Il y a des pays qui peuvent aller plus vite, mettre un maximum au niveau européen, ça peut aider justement à construire cette dynamique européenne qui est essentielle.
Bonsoir Guillaume Crunel.
Bonsoir.
Vous êtes associé en charge de l'automobile et de la mobilité chez Deloitte. Vous nous avez rejoint, vous avez entendu ce qui a été dit au début de ce débat. Hein. L'électrique aujourd'hui, c'est 10% des ventes de voitures, mais c'est un marché qui est en pleine expansion, qui a doublé en Europe en un an. Vous en pensez quoi, vous, de ces chiffres-là ?
Dans l'absolu, on les constate. Moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, est ce qui se passe probablement de manière assez significative en Europe, c'est une baisse du marché d'ensemble. Aujourd'hui, globalement, les chiffres de 2021 sont assez éloquents en France. On a un marché qui recule avec une augmentation globale du véhicule électrique dedans. Donc, on peut être satisfait de la montée du véhicule électrique qui est une réalité qui est tout à fait positive. Maintenant, ça se fait dans un contexte qui est globalement baissier. Donc il faut comprendre les raisons de cette baisse. Est-ce qu'elle est purement conjoncturelle ? Est-ce que c'est les semi-conducteurs ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus gênant ? Moi, je pense qu'il faut quand même se poser la question de, et ça Bernard Julien l'a bien mis en avant, c'est la question de la, je dirais, de la capacité d'une partie importante de la population à accéder à ce type de véhicule. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème de choc d'offres hein, entre ce qui est offert et ce qui est aujourd'hui achetable. Nous, notre dernière étude prouve que 75% de la population française déclare de ne pas pouvoir acheter un véhicule, ne pas penser acheter un véhicule électrique supérieur à 30 000 euros. L'offre globale est très largement supérieure à ça. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu problématique si la population, je dirais au sens large et populaire du terme, n'a pas les moyens de basculer. Donc, il faut voir qui achète aujourd'hui, qui achètera demain. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un boom du véhicule d'occasion, très thermique, et je dirais quelque part la capacité des gens à acheter un véhicule en France, en moyenne une transaction véhicule neuf, véhicule d'occasion, c'est aux alentours de 8000 euros. Donc la vraie question pour savoir si on décarbone un parc, c'est-à-dire les 30 millions ou 33 millions de véhicules qu'il y a en France, et pas simplement une partie des véhicules neufs vendus dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le parc vieillit tous les ans, on est à quasiment 11 ans d'âge moyen, et c'est pas des véhicules pas polluants qui s'échangent aujourd'hui dans les routes.
Et là, pour le coup, je me retourne vers Pierre Lefebvre. On déplace, parce que vous avez évoqué beaucoup de choses, Guillaume Crunel, mais notamment cette hausse du marché de l'automobile, de l'occasion, alors que le marché de l'automobile est clairement en chute en Europe. Le marché de l'occasion est en augmentation, plus 8% l'an dernier en France. Là, pour le coup, ce n'est pas une solution pour la crise écologique.
Alors, en effet, je pense qu'il y a plusieurs choses qui viennent d'être dites qui sont importantes. La première, en fait, c'est le constat que le secteur automobile français, il est à un carrefour. Il y a des choix à faire aujourd'hui qui sont déterminants pour l'environnement et la préservation de l'emploi. Là-dessus, je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on peut revenir qui a été dit par Bernard Julien, c'est la comparaison avec la Chine, qui vend des véhicules électriques, beaucoup plus qu'en France et en Europe, mais qui vend des véhicules électriques différents, c'est-à-dire des plus petits modèles. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes tendances qu'on observe en France et en Europe. C'est certes l'électrification, mais aussi l'explosion de la vente de SUV. Ce qui a des conséquences écologiques dramatiques.
C'est l'opposé, finalement. Le SUV, c'est anti-écolo, alors que le marché électrique, ça se veut écologique.
Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures très importantes à prendre sur des taxes sur le poids des véhicules. On pourra en reparler plus tard. Mais l'enjeu ici, c'est bien de montrer que pour avoir des véhicules réellement électriques moins chers et qui polluent nettement moins, il faut viser des petits véhicules. Et c'est ce que fait la Chine mieux qu'on le fait en Europe aujourd'hui. Il faut aller dans cette voie-là.
Donc rendre plus accessible l'électrique.
Absolument.
Ça va dans ce sens-là.
C'est essentiel et c'est ce qui est fait aussi avec des mesures d'accompagnement quand même importantes qui sont faites en France, qui peuvent être repensées, qui peuvent être mieux ciblées, mais qui ont le mérite d'exister et qu'il faut poursuivre et amplifier.
Bernard Julien, là, on est à un tournant parce que, effectivement, on va poser cette question. Est-ce que le véhicule électrique peut permettre de répondre aux enjeux climatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de faire de la voiture un objet de luxe? C'est ce que disait Guillaume Crunel, finalement. Et donc, de couper des millions de personnes qui sont dépendantes de cette voiture parce que l'électrique est inabordable aujourd'hui.
Oui, je pense qu'effectivement, le débat en 2021 a été très intéressant parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que si on veut décarboner, c'est parce qu'on veut que les émissions baissent. Et ce ne sont pas les quelques véhicules qu'on immatricule chaque année qui émettent du CO2, hein, et éventuellement des particules ou autres, c'est l'ensemble du parc. Hein. Et du coup, alors que d'habitude, l'industrie automobile est obsédée par ses ventes de voitures neuves, là, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe pour le parc et qu'est-ce qui se passe par conséquent pour la majorité de la population. Et évidemment, du coup, la question de la concurrence entre le véhicule d'occasion et le véhicule neuf devient cruciale parce qu'effectivement, on a un parc qui est aujourd'hui en voiture particulière de l'ordre, chez nous en France, de 40 millions de voitures, 11 ans d'âge moyen. L'année dernière, comme le disait Guillaume Crunel, on a eu un marché de l'occasion qui était à 6 millions, alors que les véhicules neufs achetés par les ménages français, c'était plutôt 720 000 voitures. Hein, donc on sent bien qu'effectivement, il y a un gap considérable entre l'offre des constructeurs et la vie de la population. Et il faut prendre ça en compte. Hein, et là, je ne parle que de la France, mais si on évoque la Roumanie ou la Pologne, vous imaginez bien que ce que je suis en train de vous dire est deux fois plus important ou deux fois plus ample. Quoi. Hein, et donc, évidemment, ça veut dire qu'il faudrait que les véhicules électriques proposés ressemblent moins à ceux qu'on a aujourd'hui dans l'offre des constructeurs et davantage à l'offre chinoise, d'une certaine manière. Sauf que quand on fait ça, et c'est le cas par exemple avec la Dacia Spring, on le fait avec des véhicules importés. Hein, donc il y a évidemment une question cruciale qui est la question de savoir comment on va orienter l'offre et comment on va conduire une politique industrielle qui permettra que l'électrification puisse se faire dans des conditions qui soient compatibles avec le pouvoir d'achat des Européens, sachant qu'en Europe, on n'a pas seulement des Allemands ou des Norvégiens avec toutes les subventions qui peuvent être allouées à l'achat de véhicules électriques dans des contextes comme cela, mais on a aussi des Grecs, des Creusois, hein, dans un département français, hein, ou bien des Polonais. Hein, et ça, je pense que la réflexion autour de ces conditions de la décarbonation, elles sont pas encore tout à fait réunies. Alors évidemment, on a progressé considérablement durant les deux dernières années dans la réflexion sur ces questions-là, mais évidemment, hein, comme le disait Guillaume Crunel, on a un gap considérable aujourd'hui et un gap croissant entre les ventes de voitures neuves et les ventes de voitures d'occasion, et qui font que les statistiques qu'on a sur les ventes de voitures électriques, elles sont intéressantes parce qu'on est à 10%, mais on a 10% de volume décroissant. Donc évidemment, ça veut dire que le rythme de renouvellement du parc, il est ralenti. Or, aujourd'hui, quand je regarde les immatriculations par rapport au parc, il ne faut plus 20 ans, mais plutôt 25 ans pour renouveler notre parc. Quoi. Hein, et donc, ça veut dire que même si on arrêtait d'immatriculer des voitures thermiques en 2035, on n'arriverait pas à avoir un parc décarboné en 2050. Donc, on est à la croisée des chemins. On a progressé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre quel est le phénomène de renouvellement de parc et quelle est la capacité des ménages européens, et pas seulement français, à s'acheter des voitures décarbonées.
Fabriquer des véhicules électriques. À moindre coût, Pierre Lefleuve, vous vouliez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit?
Que cette tendance, en effet, du marché de l'occasion et de l'augmentation de la durée moyenne de vie d'une voiture en Europe, elle est essentielle. Et de fait, je rejoins ce qui vient d'être dit sur les efforts doivent être faits le plus rapidement possible. Cette transition, elle doit être faite très rapidement, parce que plus on attend, plus ce sont des véhicules qui restent dans le parc automobile français et européen, et plus ça ralentit cette transition écologique. On parlait de la date de fin de vente des véhicules thermiques.
2035.
L'Europe propose 2035. Le réseau Action Climat, on va jusqu'à proposer 2030. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une modélisation avec le cabinet d'études Carbon 4.
J'allais vous en parler de cette étude, oui.
Et ben justement, donc, qui montre que la seule date qui permet aujourd'hui de respecter nos objectifs climatiques dans les conditions actuelles, c'est 2030. Et tout retard pris par rapport à cette date doit être compensé par des efforts très importants de report modal.
Alors que la France veut plutôt 2040. Et donc même pas 2035. Vous vous dites qu'il faut 2030. Et vous vous dites aussi que la fin de vente doit concerner les essences et les diesels, mais aussi, on n'en a pas encore parlé, les hybrides, vous dites.
Donc, oui, absolument.
Qui fonctionnent à la fois avec moteur thermique et moteur électrique.
Tout à fait. Et la France, qui en plus vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, a une responsabilité énorme là-dedans. En tant que grand constructeur européen, et qui veut le rester, et qui doit avoir cette ambition de vouloir le rester, a un rôle moteur à jouer là-dedans. L'Allemagne, pendant longtemps, a défendu cette position de 2040. Avec le nouveau gouvernement, ils ont adopté cette date de 2035 dans leurs objectifs nationaux. C'est déjà une progression. Le Royaume-Uni était sur 2035, il passe sur 2030. C'est une tendance générale des pays qui essayent d'être pionniers dans cette transition. La France ne peut pas être en retard là-dessus si elle veut préserver justement les emplois de ce secteur essentiel au maillage industriel de la France et doit continuer d'être ambitieux là-dessus. Être ambitieux aujourd'hui, c'est faire la transition la plus rapide possible. Et chaque année qu'on prend de retard, c'est une transition plus brutale, avec des conséquences pour l'environnement et pour l'emploi.
Guillaume Crunel, vous qui êtes associé en charge de l'automobile et de la mobilité chez Deloitte, vous en pensez quoi de ces échéances 2040, 2035, 2030 pour la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe? Et est-ce que c'est d'augure, selon vous, à répondre aux enjeux climatiques? Puisque c'est la question que nous posons ce soir.
Je pense que quand on parle de... Là, en ce moment, on est en train de parler de vente de véhicules neufs et les véhicules qui roulent dans les rues, c'est un parc. Donc ça, c'est clairement la vraie capacité à jouer à un moment sur les émissions globales, c'est la capacité à impacter le parc et donc à faire que le parc se rajeunisse et un mix électrifié plus rapide. Moi, ce qui me semble important, hein, j'ai pas d'opinion particulière, je fais confiance aux experts sur les dates de 2030, 2035, 2040. Je dis juste que la question qui est posée à chaque fois qu'on donne une date, c'est qui va payer. En fait, le sujet, comme il se pose aujourd'hui pour nos grands acteurs, enfin, français et européens, c'est que quand on passe d'une production majoritairement thermique à quelque chose d'électrique, il faut non seulement développer les technologies, être compétitif par rapport à d'autres bases de coûts, notamment en Chine, mais en même temps, il faut embarquer la restructuration de l'ensemble de la chaîne liée au moteur thermique et à la chaîne de traction. Donc ce qu'on va mettre dans la base de coûts des véhicules électriques qui vont être produits, c'est non seulement leur spécificité, leur coût à eux, mais aussi la reconversion de l'outil passé. Donc plus on rapproche, et plus la base de coût s'amortit, et plus le coût de la reconversion s'amortit sur un nombre d'unités de véhicules. Donc plus c'est cher à produire, et moins c'est acceptable pour la population. Donc il y a un moment, il faut savoir qui va payer ça, sinon le cercle économique a du mal à fonctionner dans une logique, économique purement traditionnelle. Donc c'est vraiment ça le sujet économique aujourd'hui. La reconversion, les passages, ça, c'est pas des choix, c'est pas des choix technologiques, ce sont pas des choix de supériorité d'un service, ce sont des choix réglementaires. Donc à partir de ça, il faut en tirer les conséquences. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est le financement de cette transition à marche forcée. Oui. Chez les constructeurs.
Il y a des aides. Par exemple, en fin d'année dernière, la France a annoncé 400 millions d'euros pour aider justement la filière automobile qui est confrontée à ce passage de l'électrique. Et, les aides, est-ce que ce n'est pas crucial justement pour permettre ce passage à l'électrique et donc qu'on n'ait pas cette surreprésentation des véhicules d'occasion au détriment et qui déplacerait complètement le problème écologique?
Ou des véhicules venus d'ailleurs avec une base de coûts bien inférieure et des prix de vente tout à fait compétitifs. Certes, je pense qu'il y a les aides, c'est une chose. Après, il y a un certain nombre de choses autour du coût de l'importation. Il y a des pistes qui ont été évoquées autour du poids des véhicules. On sait très bien qu'un véhicule électrique qui est performant d'un point de vue écologique est un véhicule qui est plutôt léger. Donc il faut aussi savoir mettre en avant probablement d'un point de vue fiscal ceux qui respectent ces choses-là à terme. Donc il y a tout un ensemble d'aides. Après, moi ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la valeur d'un véhicule thermique aujourd'hui, le moteur plus la transmission, on n'est pas loin des 50%. C'est en face de ces enjeux-là qu'il y a des aides à proposer.
Bernard Julien, l'enjeu, il est d'abord économique pour parvenir à cette réussite climatique?
Ah, moi, effectivement, je suis assez convaincu qu'il est essentiel que cette mutation-là ne se fasse pas au détriment de notre industrie, au détriment de notre balance commerciale, au détriment des personnes qui travaillent dans l'industrie. Hein. Donc, moi, l'idée que j'ai en tête, si vous voulez, c'est une espèce de New Deal électrique qui permettrait de restaurer l'emploi, la compétitivité, etc. De ce point de vue-là, la France, hein, il est bien clair qu'elle n'a cessé depuis pratiquement 20 ans de perdre des emplois dans son industrie automobile. Donc si vous continuez sur ce trend-là et que vous y ajoutez l'électrique, vous arrivez à une quasi-inexistence de l'emploi automobile en France.
Ou alors électrique aubaine pour se relancer. C'est...
Voilà.
Ça peut être vu comme
et
ça.
Et donc l'alternative, c'est de dire, ben voilà, hein, l'État est en train de dépenser des mille et des cents pour aider les industriels à faire cette mutation. Elle le fait en installant des bornes, elle le fait en donnant 5, 6, 7 000 euros aux ménages ou aux entreprises qui changent vers l'électrique. Elle le fait aussi en aidant les industriels à fabriquer des usines de batteries, etc. Donc face à cela, il me semble qu'il est essentiel qu'il y ait relocalisation. Hein, et qu'on dise, ben voilà, l'électrification, ce doit être une occasion de demander aux constructeurs que nous aidons tant des contreparties en termes de relocalisation. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut leur tordre le bras, etc. Mais ça veut dire quand même que, ben, il faut que le trend qui consistait à aller fabriquer des Clio 5 en Turquie, à aller fabriquer des 208 en Slovaquie, à aller fabriquer des C3 en Fermat-Aulnay pour aller les mettre de la même manière en Slovaquie, bah, tout ça, ça soit remis en cause, quoi. Mmh. Et si on présente les choses ainsi aux ouvriers de l'industrie, aux régions qui accueillent des industriels, hein, bah, peut-être qu'on peut effectivement présenter cette mutation vers l'électrification comme n'étant pas une affaire de bobos parisiens qui ont envie que leurs enfants respirent en se fichant de savoir comment vont vivre les Polonais, les Roumains ou les Creusois. Hein. Donc il y a effectivement une vraie question, je dirais, politique, hein, qui passe par cette espèce de lien qui doit être fait entre le devenir de l'industrie et le devenir du parc, si vous voulez, d'une certaine manière.
Alors vous, hein, vous...
Et ça, bon,
allez, voilà. Allez-y, achevez.
Non, ça veut dire que vous avez effectivement une vision de l'électrification qui passerait par des Tesla ou des véhicules de ce type-là à très forte autonomie qui ne permet pas d'aller vers cela. Et puis vous avez des choses qui se présentent, à mon avis, plutôt dans le bon sens. Hein, typiquement, la R5 électrique fabriquée à Douai par le constructeur automobile Renault, ça va dans le sens que je viens d'indiquer, si vous voulez.
Mais alors, vous avez cité les bobos parisiens, c'est intéressant parce que je voudrais, vous qui êtes spécialiste de l'industrie automobile, avec vous prendre un peu de hauteur, entre guillemets, dans ce débat et poser la question de est-ce que cette question de l'électrique tournant pour la planète, c'est pas finalement une question de... Un débat de riches, est-ce que dans des pays où ben, on ne peut pas, parce que vous avez parlé des batteries, il faut les recharger, il y a des pays où c'est tout simplement pas possible de recharger ces batteries. Ça, c'est un enjeu important.
Ben, c'est vrai que l'électrification, c'est un consensus qui a émergé, d'abord avec la Chine, ensuite avec l'Europe et enfin avec les États-Unis. Donc ça veut dire que il n'y a pas unanimité autour de cela. Ceci étant, quand vous regardez Bombay, quand vous regardez Sao Paulo, etc., l'ampleur des problèmes de pollution, alors plutôt de pollution locale, mais enfin, ces problèmes-là sont présents partout. Mmh. Et accessoirement, ce qui a motivé la Chine à aller vers l'électrique, c'est le fait qu'ils étaient moins handicapés sur le plan compétitif par rapport à l'électrique, puisque c'était nouveau pour eux, comme c'était nouveau pour nous, qu'il ne l'était par rapport aux motorisations thermiques, quoi. Donc je pense que rien ne permet aujourd'hui de penser que l'électrique, l'électrique va être, hein, une espèce de standard universel, quoi. Hein, de la même manière que les véhicules thermiques s'étaient imposés au début du XXe siècle comme largement vainqueur dans la bagarre entre les véhicules à vapeur, les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Là, la messe est un peu dite, quoi, si vous voulez. Hein, et donc, il va falloir que chacun puisse tirer son épingle du jeu électrique hein, parce que c'est ça qui va s'imposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, comme vous le disiez, ça sera facile de recharger son véhicule à batterie en Inde ou au Brésil. Hein, mais le fait est que les constructeurs automobiles mondiaux, ils vont abandonner tout leur programme de recherche en thermique parce que l'essentiel du marché de 100 millions de bagnoles par an, il va être électrique. Quoi.
Et la révolution électrique est en cours. Pierre Le Fleuve, est-ce qu'on ne détourne pas finalement l'enjeu climatique avec cette idée du véhicule électrique ? Personne n'a parlé finalement d'une pression politique. Elle existe certainement. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que développer l'électrique, ou en tout cas en plus de développer l'électrique, accompagner ce développement de mesures de réduction de l'utilisation de la voiture? Alors je parle à vous qui êtes responsable transport au réseau Action Climat, le covoiturage, plus de transport en commun, ça on en parle peu. Finalement, les autorités misent sur le tout électrique. Ce marché est en cours, nous dit Bernard Julien. Est-ce que ce sera suffisant, puisque c'est la question qu'on pose ce soir, pour que ce marché automobile qui est tant responsable d'émissions de gaz à effet de serre, justement, se tarisse?
Absolument, on ne s'est pas attardé ce soir sur les limites du véhicule électrique, qui sont réelles, que ce soit sur les matériaux, le lithium, le cobalt, on pourrait aussi parler du nickel, qui sont des réserves limitées. Donc le véhicule électrique a un potentiel de développement qui est limité, qui est loin d'être atteint aujourd'hui, mais qui reste limité. Et ça pose tout à fait la première question, qui est un vrai véhicule propre, c'est pas de véhicule. Et donc la première question, le premier levier de réduction des émissions, c'est la réduction du parc automobile.
Alors finalement, si je vous suis ce qui a été dit en tout cas au début d'émission, cette réduction elle va se faire de fait par le coût du véhicule. Et c'est pas une solution.
Non, c'est pas une solution et c'est pour ça que ça doit être accompagné et anticipé. Je parlais tout à l'heure de l'importance de ne pas prendre de retard sur ces mesures-là et ce qui est lié à l'importance d'anticiper tous ces changements-là, que ce soit pour l'emploi, des reconversions, parce qu'évidemment, on ne construit pas avec les mêmes compétences exactement un moteur thermique qu'un moteur électrique. Ça doit être anticipé, ça doit être accompagné pour les emplois. C'est aussi le cas pour les ménages qui doivent être en mesure de s'équiper quand c'est nécessaire d'un véhicule électrique ou d'un véhicule qui émet moins. Mais c'est aussi développer les transports en commun, l'éco-voiturage, réfléchir à notre image de la voiture, à ses usages. Et ça doit être anticipé, ça aurait dû l'être. Et ça, il faut absolument accélérer là-dessus.
Guillaume Crunel, vous en pensez quoi, vous, associé en charge de l'automobile? Justement, cette idée qu'on mise sur le tout électrique, on ne parle pas de l'idée peut-être de réduire la voiture.
Bon, je pense qu'il faut se fermer aucune évolution. Il y aura un mix énergétique futur. On parlera d'hydrogène un peu plus tard. Il restera probablement un peu de thermique. Il y aura quelque chose d'un peu plus complexe qu'aujourd'hui. Maintenant, la révolution des usages qui était évoquée là, elle est très pertinente. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, quand on veut changer les usages, c'est soit on partage son véhicule, parce qu'il faut quand même un véhicule, soit on utilise les transports en commun. Je vous rappelle quand même que dans plus de 50% du territoire français, l'offre, la part modale des transports publics, c'est moins de 4%. Donc, je veux dire, la moitié de la France, aujourd'hui, a une offre de transports en commun qui est inférieure à celle du Kansas. Donc, il y a la bagnole choisie, pour certains, et sur lequel on doit faire des choses, hein, dans les grandes métropoles, dans le périurbain. Il faut de l'innovation dans la manière d'utiliser les moyens de transport existants avec du partage notamment. Après ça, il reste toute une partie des territoires qui pour laquelle la voiture aujourd'hui est une voiture qui est subie. Et là, moi, je pense que il y a vraiment quelque chose autour de l'électrique, parce qu'une voiture pas chère avec un coût de maintenance très très inférieur. Nous, on sait qu'une voiture électrique en maintenance c'est plus de 60% de moins qu'un véhicule thermique. On peut se recharger chez soi avec une électricité pour le moment globalement décarbonée en France. Ça peut être une solution si on arrive à mettre demain des véhicules abordables pour toute cette partie de la population pour qui la voiture est une obligation.
Vous avez bien résumé l'enjeu des véhicules à moindre coût. Mais en tout cas, et c'est ce qui ressort de ce débat, cette révolution électrique est en cours et elle va s'imposer, c'est ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile et la mobilité chez Deloitte. Merci à Bernard Julien, qui était également en ligne avec nous, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Et merci à vous Pierre Le Fleuve, responsable transport au réseau Action Climat. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Merci à Florence Ponce qui m'a aidé à le préparer, à Valentin Alves qui était ce soir à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI, évidemment, hein, rendez-vous sur notre site internet pour réécouter ce débat, rfi.fr, et dans une poignée de secondes, ce sera RFI Soir.
Tous les jours,